Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Irénée. Avec le soutien de OCISA et des gouvernements de Suisse, de Suède, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas.
Bien, merci pour votre fidélité à ce programme. Vous savez, en République démocratique du Congo, 3 Congolais sur 100 souffrent d'un ennemi SS, selon les statistiques du Programme national de lutte contre la drépanocytose, une maladie liée au sang qui se retrouve principalement chez les personnes de race noire. Alors, selon certaines personnes, les enfants SS ne font que souffrir et sont un poids pour leur famille. Il faut beaucoup dépenser beaucoup d'argent pour leur prise en charge. Est-il possible d'être SS et garder le sourire, Docteur Patrice?
Merci pour la parole. Il est possible d'être SS et garder le sourire.
Oui.
Surtout si, évidemment, la maladie a été détectée à temps par un diagnostic précoce, disons, à la naissance.
Oui.
Ce qui permet donc aux enfants d'être pris en charge correctement et puis donc d'améliorer leur qualité de vie.
Et c'est quoi cette maladie qu'on appelle drépanocytose ou anémie SS?
C'est une maladie génétique. Elle est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle est due à la présence de l'hémoglobine S, qui est donc l'hémoglobine anormale, qui peut être donc héritée des deux parents pour que ça puisse donc se reproduire sur l'enfant.
Donc ça se retrouve dans le sang, disons, de tous les deux parents ou de l'un des parents?
Il faudrait que les deux parents portent le gène S pour pouvoir donc être capable de le transmettre à leur descendance.
Alors,
et c'est le gène S qui est donc l'hémoglobine donc anormale.
Mmh.
C'est celle-là qui remplace, qui est à la place de, c'est que la normale, c'est la A. Donc quand les parents possèdent une fraction d'hémoglobine S, les deux parents à la fois, ils sont donc susceptibles de le transmettre à leur descendance.
Bon, peut-être que certaines personnes comprennent pas tout ça. Est-ce que c'est lié au groupe sanguin? Il y a des gens qui ont les groupes A, O positif et autres. Est-ce que c'est lié au groupe sanguin?
Le groupe sanguin, c'est une composante antigénique qui permet de classifier les individus et donc pour assurer donc une transfusion sanguine compatible, la compatibilité d'une transfusion sanguine.
Oui.
Ce n'est pas la même chose que l'hémoglobine. L'hémoglobine S ou bien A qui est donc responsable de l'anémie SS.
Oui. Donc c'est pas la même chose, donc c'est différent.
Le groupe sanguin, c'est juste c'est comme une identité. Donc chaque individu possède son groupe sanguin qui est soit AB ou O, ok? Ou bien, il y a aussi notre contrôle du groupe sanguin qui est aussi le facteur risque que nous utilisons ici en RDC.
Oui.
Donc ça, c'est donc une identité propre à chaque individu.
Mmh.
Ça n'a rien à voir avec l'hémoglobine qui doit être soit A, S ou bien AS.
Mais ça, cette hémoglobine, c'est toujours dans le sang. Nous sommes toujours dans.
Nous sommes toujours dans le sang.
Le sang.
Oui.
Voilà, donc il y a certaines personnes, par exemple, avant d'aller se marier, on leur demande, bon, allez faire les examens prénuptiaux. Il y a également un examen qu'on appelle électroporose. C'est pour détecter justement l'état anémique.
Oui, le contrôle de l'hémoglobine, c'est l'examen qui est donc conseillé en tant qu'examen prénuptial à chaque individu ou bien chaque personne en âge de procréer, bien prêt à se marier, pour éviter donc que ces individus-là, s'ils sont AS, de pouvoir donc être des géniteurs d'enfants malades.
Oui. Il y a certaines personnes qui se disent l'amour est aveugle, même si on constate qu'on a les mêmes gènes, bon, on y va quand même, ça va aller.
Bon, écoutez, nous ne sommes pas là pour donc séparer les gens qui s'aiment, mais nous sommes là pour donc conseiller et prévenir et informer la population, leur dire qu'il y a un problème, c'est ce qui est très important dans notre communauté, et que tout le monde devait donc être en dehors de l'ignorance, donc savoir qu'il y a une maladie qui est génétique et qui peut être facilement transmise à la descendance et à la fin pouvoir donc causer beaucoup de préjudice au couple qui devait être heureux, mais après avoir un enfant ben, malades, et 1 ou 2, 3, 4 enfants malades, vous comprenez un peu le coût social et le coût psychologique que tout cela apporte à une famille qui vient juste de s'unir. Donc, tout cela, c'est donc pour cela que nous préférons prévenir d'abord, informer la population, leur dire qu'il y a un problème sérieux, surtout dans l'Afrique noire et l'Afrique subsaharienne. Chez nous, en RDC, nous avons déjà 25 à 30% de la population qui est porteur du gène. Et certains ne se connaissent même pas. Hein, c'est comme ça qu'il faut...
Ils n'ont jamais fait des examens.
Ils n'ont jamais fait des examens. Ils sont ignorants, les parents, tout le monde est ignorant, les enfants eux-mêmes, les parents évidemment. Et c'est comme ça qu'il faudra sensibiliser toutes les couches de la société par rapport à ce problème.
Aller faire le dépistage.
Exactement.
Oui. Voilà, nous, dans cette émission, les auditeurs appellent pour poser des questions. Nous avons en ligne Dieudonné Toamene de Maragui, Litouri. Bonjour. Dieudonné, bonjour. Dieu merci.
Oui, bonjour.
Oui.
Dieu merci.
Voilà, quelle est votre question?
Monsieur, Dieu merci à Loubango Toumbe. Je suis à Maragui.
Ok, allez-y.
Ok, je voudrais poser une seule question à l'invité. Si quels sont les symptômes de cette anémie AFF?
Ouais, docteur Patricia.
Merci beaucoup. Définir les symptômes, ça dépend maintenant de l'âge à lequel l'individu se trouve. Si c'est un enfant et un nourrisson, eh bien, nous avons donc l'ictère, la coloration jaune des yeux, les pleurs incessants, un enfant qui présente des fièvres à répétition, un retard de croissance, un ballonnement abdominal. Et chez donc les individus un peu plus âgés, dont nous avons donc la boiterie, nous avons aussi...
La boiterie.
Donc, le fait de boiter, le fait de boiter, les douleurs osteo-articulaires à répétition.
Cela veut dire quoi, les douleurs
Douleur, c'est donc...
Vous avez utilisé un terme technique, là.
Douleur, c'est-à-dire, donc, quand vous avez mal, quand vous avez mal...
Au niveau des os,
Au niveau des os. Au niveau des os... etc. Et à partir de les enfants de moins de 4 ans aussi, qui ont donc une urésie, qui font pipi au lit à répétition.
Ah, c'est également un signe de cette maladie-là.
Uh-huh.
Ok. Donc, ce sont là les signes de cette maladie. Mais il y a certaines personnes qui en souffrent et qui se disent, il semble, selon certaines informations qui circulent à la cité, les gens qui souffrent d'anémie SS ne dépassent pas tel âge. Ils meurent toujours avant cet âge-là, 30 ans généralement. Est-ce que c'est vrai, docteur?
Il n'y a pas un âge fatidique pour délimiter donc l'espérance de vie des personnes anémiques.
Mmh.
C'est comme ça que nous préconisons donc un dépistage précoce et une qui pourra donc assurer une prise en charge donc adéquate de ces enfants-là pour prévenir donc des crises de répétition, des infections qui pourront donc leur entraîner donc des complications plus graves. Mais nous voyons dans la société, il y a des personnes anémiques qui ont l'âge de 70 ans, 54 ans, il y en a ici en RDC et qui sont aussi engagés dans la lutte contre cette maladie.
Voilà, donc on peut mieux vivre avec cette maladie si elle est détectée avant.
Elle est détectée avant et si on respecte certaines règles d'or, que les drapanocytaires qui sont souvent unis dans des associations sont, et leurs familles aussi sont conseillées par rapport à l'hygiène corporelle qu'ils doivent avoir, un méthode de vie à mener, l'alimentation et tout pour donc prévenir les crises et donc améliorer leurs conditions de vie.
Les questions de réaction composées de 081 890 63 94.
Réponse à vos réactions, questions ou suggestions avec l'invité de Capu Charlie.
Bien, nous parlons de la drépanocytose avec Dr Patricia Foto. Alors, quel est l'hygiène de vie que doit adopter une personne qui souffre de l'anémie SS?
Bon, elle se résume dans les 10 règles d'or que je vais vous citer. Donc là, il faut donc se faire consulter chaque mois au centre de santé, bien se laver le corps et les dents pour éviter les infections, surveiller les températures qu'elles ne soient pas au-delà de 38 degrés, et si l'enfant a chaud, donnez-lui un paracétamol, et boire 2 à 3 litres d'eau par jour, éviter les endroits mal aérés, enfermés, l'altitude et le voyage en avion qui est non pressurisé, et avoir une alimentation variée et équilibrée, comme je l'avais dit, et surveiller la couleur des yeux et des urines, et emmener au centre de santé si donc la couleur est donc un peu plus foncée que là. un peu plus foncé que d'habitude. Évitez tout ce qui peut ralentir ou bloquer la circulation du sang, comme les vêtements trop serrés, les jambes croisées, très trop serrées, ceintures et chaussettes aussi trop serrées, donc les vêtements trop serrés. Et dormez au moins 7 heures par nuit. Évitez les efforts physiques très intenses comme les sports de compétition, etc. Et aussi promouvoir la protection du drapeau dentaire contre les piqûres, des moustiques et donc faire la promotion de la lutte contre le paludisme chez le drapeau dentaire en utilisant donc la moustiquaire imprégnée et aussi à tenir le milieu péri-intra domiciliaire.
Et il y a certaines personnes qui disent que les personnes qui souffrent de l'anémie SS courent beaucoup de risques. Si c'est une dame qui est mariée, qui est enceinte, elle court beaucoup de risques lors de l'accouchement.
Évidemment, l'accouchement lui-même est déjà un état à risque chez une femme qui n'est pas drépanocytaire, et elle est encore un état à très haut risque chez les femmes drépanocytaires. Mais maintenant, il faudrait également que cela puisse se faire, qu'elle puisse avoir des visites régulières et un peu plus dans un centre spécialisé. Où il y a des médecins qui sont donc là pour faire accoucher ces dames. Et puis il y a une équipe aussi, une équipe qui est donc pluridimensionnelle. Il y a le gynécologue, l'interniste, l'anesthésiste, donc prêt à donc à intervenir chaque fois qu'il y a ici pour avoir une complication.
Et pourquoi il y a beaucoup de risques pour ces gens de cette catégorie de personnes?
Parce que la femme enceinte elle-même, déjà, elle a un problème donc hémovasculaire qui est déjà dérangé. Et souvent, elle n'a pas le taux d'hémoglobine. La femme normale n'a pas le taux d'hémoglobine comme une femme qui n'est pas enceinte. C'est déjà assez bas, aux environs de 11 grammes par décilitre. Et vous vous rendez compte que les femmes reproductrices qui ont déjà un taux d'hémoglobine qui va de 7 à 9 grammes, quand elle est enceinte, le taux d'hémoglobine est encore un peu plus bas que celui-là. Donc vous comprenez que déjà, par son état anémique, c'est déjà donc un grand risque pour elle. Et puis, il peut aussi survenir d'autres complications obstétricales auxquelles donc que le médecin gynécologue devra donc faire face pour pouvoir donc faire accoucher cette femme dans des conditions beaucoup plus, un peu plus donc très donc contrôlées par rapport à la femme qui est non-dépendantitaire. Et aussi, la grossesse aussi, c'est parfois aussi, au cours de la grossesse, on peut avoir des crises vaso-occlusives qui peuvent aussi déclencher donc d'autres complications obstétricales et aussi maternelles.
Oui. Baudouin Moutanda nous appelle depuis Kolezi au Katanga. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui Daniel Kachama, bonjour aussi à notre cher invité. J'ai trois préoccupations. Hein.
Oui.
La première est celle-ci. Quelle est l'espérance de vie pour un drépanocytaire qui mène une vie normale, qui respecte tous les conseils? Et puis ma deuxième préoccupation, pour un homme de 45 ans qui souffre de cette anémie, parce que j'y connais un frère qui est mort de cette anémie après avoir contracté des relations sexuelles. Il a beaucoup souffert. On l'a prescrit le torrental à mes yeux. Malheureusement, on n'a pas eu ça, on a trouvé un comprimé. Il est mort à mes yeux. Donc, il est en train de souffrir des douleurs très atroces. Et ma troisième préoccupation, sur le plan de l'OMS, est-ce qu'il y a des études qui sont en train de se faire pour trouver une panacée à cette maladie? Voilà ma troisième préoccupation.
Merci. Docteur Patricia.
Je vous reviens pour la première question, l'espérance de vie. Nous ne pouvons pas limiter, déterminer l'espérance de vie d'un drépanocytaire, évidemment. Suite à ces complications, certains donc ont une espérance de vie assez réduite, mais nous ne pouvons pas donc limiter l'espérance de vie d'un drépanocytaire. Il faudrait donc suivre les mesures d'hygiène et tout. Mais nous avons donc des personnes qui sont drépanocytaires qui ont une vie tout à fait normale, qui vont jusqu'à 50 ans, 4 ans et plus, et 70 ans, voire même 70 ans. Oui. Donc, nous ne pouvons pas donc déterminer, parce que nous avons beaucoup de considérations pour nos patients. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'espérance de vie est de. Parce que si nous commençons à le déclarer ouvertement, c'est donc un facteur de discrimination par rapport à ces personnes-là. Donc, nous ne pouvons pas dire ouvertement que l'espérance de vie, évidemment, ils sont quand même sujets à beaucoup de complications et tout ce qui, et quand la prise en charge n'est pas correcte, donc, le ramène Bon, par rapport à l'homme de
45 ans qui a eu des relations sexuelles et cela a entraîné des complications.
Eh bien, il faut dire que les relations sexuelles, ce sont des moments quand même d'intense activité physique. Et il faut dire, et bon, ça dépend donc de la manière dont cela s'est passé. Je ne sais pas, je n'étais pas présente, mais je crois que donc, les individus intensitaires devraient donc avoir une activité sexuelle un peu donc, modérée par rapport à leur état. Donc, parce que
ça exige une certaine énergie, et ce qui entraîne la fatigue supportée.
Oui, l'activité intense, donc les exercices physiques intenses, donc c'est une cause de stress, ce qui peut aussi entraîner une crise psychologique parentale. Donc il faudrait donc que l'activité sexuelle soit présente, mais de manière assez modérée chez une personne de parentale.
Voilà.
Et par rapport à l'OMS, donc l'OMS a déjà déclaré la drépanocytose comme un problème de santé publique. Et il y a beaucoup d'études qui sont faites par rapport à la maladie ici chez nous en RDC et ailleurs à l'étranger. Donc tout le monde s'attelle sérieusement à travailler sur ce problème qui donc dessine la population, notre population.
Oui, Joël Mongol nous appelle depuis une bande à temps dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour.
Oui, on vous écoute, Joël.
Oui, la personne qui souffre de la drépanocytose doit être soumise à quel type de conditions de vie pour qu'elle vive longtemps. Qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire?
Merci Joël, docteur Patricia.
Je pense que j'avais déjà cité les 10 règles d'or, mais je pense que monsieur n'était pas présent, mais je ne sais pas si vous voulez que je y revienne.
Allez-y.
Eh bien, il doit donc se faire consulter chaque mois au centre de santé. Ok, même en dehors de crise. Et bien, pour laver le corps.
Vous allez voir un généraliste ou bien il y a des spécialistes pour.
Il y a des médecins qui sont spécialisés dans la prise en charge des drépanocytaires.
Ok.
Et bien, pour laver le corps et les dents pour éviter des infections, surveiller la température corporelle qui ne soit pas au-dessus au-delà de 38 degrés, boire 2 à 3 litres d'eau par jour, éviter les endroits mal aérés et enfermés, et éviter aussi la haute altitude et voyager dans un avion pressurisé. Avoir une
allure.
Si on voit dans un avion que l'avion soit pétillé assez d'oxygène, qu'il y ait de l'oxygène pour en cas que le malade se soit un peu étouffé, tout déjà l'oxygène.
Il ne supporte pas l'étouffement.
Non.
Par exemple, dans notre taxi bus à Kinshasa où on engouffre, les gens sont à l'intérieur comme des sardines et puis c'est pas très très bien aéré. Ça, c'est dangereux.
Ça peut être aussi déclencher une crise en route du cérébral parasitaire.
Oui.
Et puis, il faudrait qu'il ait une alimentation variée et équilibrée. Il faudrait surveiller la couleur des yeux qui ne soit pas jaunâtre et les urines également, très, très foncées. Éviter tout ce qui peut ralentir ou bloquer la circulation du sang, comme des vêtements trop serrés, des jambes croisées pendant longtemps, des tresses trop serrées. Dormir au moins 7 heures par nuit. Éviter les efforts physiques très intenses, comme je venais d'en parler pour l'activité sexuelle de ce monsieur qui a donc perdu la vie. Éviter donc des sports de compétition et puis promouvoir la protection de l'utilisation de moustiquaires imprégnés et des autres règles donc, de lutte contre les paludismes.
C'est les Bantous, on nous appelle des Kindous, on en est marre, bonjour. C'est les Bantous, bonjour.
Bonjour, je voulais demander à notre invité.
Oui.
J'ai pu remarquer souvent les gens anémiques, ils sont souvent des plaies, les plaies qui ne se cicatrisent pas. Qu'est-ce qui se dit à quoi? Cela est dit à quoi? Et qu'est-ce qu'il faut pour que ces plaies-là se cicatrisent? C'est ça ma question, ma préoccupation.
Merci pour votre question. Nous appelons ça des ulcères malléolaires. Cela est dû au mécanisme lui-même de cette maladie, c'est donc diminution de l'oxygénation des tissus. Donc, les tissus manquent d'oxygène. Oui. Le manque d'oxygène dans les tissus, donc, ce fait que donc, la peau même devient très fiable. Et nous avons donc les ulcères malheureux qui peuvent donc apparaître parce que donc, il n'y a pas de vascularisation au niveau des membres inférieurs. Et donc, ces plaies-là, ce ne sont pas des plaies dues à un traumatisme ou quoi. Elles apparaissent comme ça brutalement parce que la vascularisation, donc l'articulation sanguine dans ces endroits-là n'est plus normale parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui va dans les tissus.
Oui.
Et donc, il faudrait donc, elles sont soignées comme tout autre plaie, et font donc mettre des antiseptiques, les produits, c'est pas tout ça.
Et certains disent que les personnes drépanocytaires sont très irritables et se fâchent à tout moment, et certaines préfèrent mener un mode de vie pas très bien, boire beaucoup, prendre beaucoup d'alcool, c'est donné à, ouais, donc, à le faire de n'importe quoi, parce qu'il s'est dit, bon, de toute façon, je vais mourir très bientôt.
Évidemment, je ne pense pas que la prise de l'alcool en grande quantité chez un drépanocytaire, ce n'est pas conseillé. C'est d'ailleurs un des facteurs aussi qui peut aussi déclencher aussi des choses occlusives, la prise de l'alcool de manière excessive. Et l'irritabilité, c'est dû à leur état, psychologique. Tu vois, ce sont des personnes qui n'ont pas une croissance qui est comme l'enfant qui est drépanocytaire, ils ont un retard de croissance, ils ont peut-être des malformations au niveau des mandibules, au niveau de la boîte crânienne, ils ont parfois des boiteries, ce qui fait que nous impliquons donc la communauté, de s'imprégner du problème et donc de lutter afin que ces gens-là, de les accompagner dans leur souffrance, de les aimer.
Oui.
La famille, la communauté devrait donc savoir que ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup d'amour parce qu'ils sont très susceptibles par rapport à leur état. Donc, il faudrait donc un traitement psychologique des malades et de leur famille et de la communauté tout entière pour ne pas que ces personnes soient marginalisées.
Voilà. Meshach nous appelle de Gounia. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Meshach.
Oui, ma question était celle de savoir si entre les deux formes de la drépanocytose, la forme S et la forme AS, est-ce que ces deux formes portent toujours les mêmes symptômes?
Est-ce que les deux formes portent toujours les mêmes symptômes?
Un individu qui est AS, c'est une personne qui porte le trait drépanocytaire et c'est un individu tout à fait normal. Il porte juste le trait drépanocytaire et donc susceptible de le transmettre à sa descendance.
Oui.
Pendant que la personne qui est SS, c'est une personne qui est donc homozygote et c'est la personne qui est malade, donc qui procède donc qui est donc souffrant de la maladie. Mais le AS est un individu tout à fait normal. Et les symptômes, comme je l'ai dit, d'une personne qui est SS, ça dépend donc de l'âge. Comme, je ne sais pas si je comprends ce que je le répète.
Alors,
les fleurs incessantes,
oui.
L'hystère, la coloration jaune des yeux, le ventre, le gonflement du ventre.
Les urines jaunâtres.
Les urines aussi jaunâtres. Et quand à l'adolescence, la boiterie, le retard de croissance, tout ça sont donc les signes que l'on peut porter dans le traitement, etc.
Alors, par rapport à la prévention, vous avez dit qu'il faut encourager les dépistages volontaires. Est-ce qu'il y a des centres où les gens peuvent aller régulièrement se faire dépister?
Oui, il existe des centres où les gens peuvent aller se faire dépister. Il y a des laboratoires qui sont équipés pour le faire. Et s'ils veulent avoir
à travers tout le pays?
À travers tout le pays, dans les structures donc étatiques, la plupart procèdent le matériel pour pouvoir donc faire le dépistage.
Et la prise en charge est correctement assurée?
Bon, je ne peux pas dire que la prise en charge est correctement assurée. C'est encore un gros problème donc auquel nous nous attelons donc à résoudre pour diminuer donc l'impact donc psychosocial de cette maladie.
Et les médicaments sont disponibles?
Les médicaments sont disponibles parce que, bon, écoutez, la maladie ne se guérit que par une greffe de la moelle osseuse qui est extrêmement coûteuse. Mais maintenant, donc, le traitement donc symptomatique, c'est par les anti-inflammatoires, etc. Ils ont traité donc le traitement, le désinfectant qu'ils font là.
Bien, Augustin Dialunga nous appelle de Baraka. Bonjour.
Non, je n'appelle pas de Baraka. Mon nom c'est Isaac Augustin Dialunga Baraka. J'appelle de Linga. Linga, c'est dans le territoire de Djougou, en Ituri.
Ok, merci, monsieur Baraka, allez-y.
Oui, ma préoccupation est la suivante.
Oui.
Je voulais poser à l'invité du jour quel est l'agent causal de cette maladie appelée la drépanocytose. Et puis la deuxième préoccupation, depuis combien de temps cette maladie date déjà en RD Congo et quelle est la statistique de cette maladie par période?
Merci, monsieur. Alors, s'il te plaît, Patricia.
Il n'y a pas d'agent causal parce que ce n'est pas. Il y a un agent causal, il faudrait qu'il y ait un vecteur pour donc amener. Mais là, c'est un problème génétique, donc qui est présent dans le sang. Cela était dû à une mutation qui s'est donc opérée dans les gènes, dans manière, au niveau des chromosomes.
Je ne sais pas expliquer ça encore.
C'est explicable. C'est donc au niveau du 11e chromosome et la 6e position du codon que c'est donc fait une mutation. Il y avait donc l'acide glutamique qui était remplacé par la valine. Et cela donc a fait que...
Là, c'est trop technique. Hein. Là, c'est trop technique. Alors, allez-y quand même.
Oui.
Un détail beaucoup plus simple.
Donc, il y a eu donc un changement,
oui.
Un changement au niveau chromosomique qui a fait que la présence de l'hémoglobine S a remplacé le A. Mm. Et c'est ce qui fait que donc, maintenant, cela est donc transmissible à la descendance quand un des parents est porteur du trait S. Cela donc est transmissible à la descendance. Ce n'est pas qui est un agent causal, mais c'est une mutation qui a été produite, qui s'est produite. Dans le sang, et ce qui fait que des individus sont porteurs de l'hémoglobine S, et c'est ce qui est donc anormal et ce qui est donc susceptible d'être transmis alors à leur descendance s'ils ont donc un contact avec un autre individu de la même hémoglobine ou bien un SS.
Alors, pour terminer, docteur, pour prévenir ça, c'est d'avoir des enfants qui souffrent de cette maladie, que peut-il faire?
Pour la prévention, il faut d'abord la prévention donc primaire, donc c'est donc l'information, la communication, l'éducation, la sensibilisation de la masse par rapport à la maladie d'abord, et puis après faire le dépistage précoce, donc dépister donc les enfants. Donc
apparemment, il n'y a pas une grande vulgarisation.
Évidemment, ce sont les moyens donc qui sont mis à la disposition, ne sont pas assez donc considérables, mais déjà sur le terrain, certaines ONG aussi s'attellent à faire le dépistage et sensibiliser. Mais évidemment, il faut mettre donc beaucoup de moyens donc pour faire donc accroître cette action de vulgarisation.
Docteur Patricia Poto, directrice du programme national contre la drépanocytose, je vous dis merci et à la prochaine.
Merci, au revoir.